La route des secrets. Entrons ensemble dans l'histoire, les mythes et légendes de la belle Occitanie. Chers amis, au cœur de l'Occitanie, quand on évoque Rennes-le-Château et ses secrets, on n'en finit pas d'énumérer et d'analyser à la loupe les faits et gestes de Béranger Saunière. Mais l'énigmatique curé n'a pas été le seul ecclésiastique du Haut-Razès dont la vie est nimbée de mystères. Il y a aussi Antoine Gélis, dont l'assassinat pourrait fournir quelques clés à une recherche qui continue à passionner les foules. L'homme qui est né le 1er avril 1827 dans les Landes fut d'abord curé de Durban, puis de Lanette, avant d'être nommé en 1857 à Custossa, un petit village situé à quelques kilomètres de Rennes-le-Château. C'était un homme méfiant, qui vivait seul, ne fréquentait personne et s'enfermait toujours chez lui. Un fait rarissime dans les campagnes de l'époque, ses volets étaient clos chaque nuit, même en été. Pourtant, en dépit de ses précautions, l'abbé Gélis fut trouvé au matin du 1er novembre 1897, gisant sans vie dans une mare de sang sur le sol de la cuisine de son presbytère. Les lésions relevées sur le corps témoignent de la violence du meurtre. 14 blessures faites à la tête, au-dessus de la nuque, certaines par un instrument contondant et d'autres par une arme de type hachette, ont fracturé le crâne et fait gicler le sang et la cervelle sur les murs et le plafond de la pièce. La maison semble avoir été fouillée, mais l'argent conservé par le prêtre a été retrouvé intact. Le butin se résumerait à 2 ciboires. Mais revenons à notre histoire. Antoine Gélis est né à Villesèquelande le 1er avril 1827. Après ses études au séminaire, il fut nommé vicaire de Durban et, le 11 octobre 1857, il était nommé à Custossa, où il devait exercer son ministère pendant 40 ans. Custossa est un petit village perché sur une colline dominant la vallée du Rialsès, entre Cuisa et Arques. Un vieux château féodal en ruine, quelques maisons autour de l'église, le cimetière à l'écart, tel est le décor modeste dans lequel l'abbé Gélis passa le plus clair de son existence. À l'automne 1897, prenant ses dispositions pour sa retraite, le prêtre, âgé de 70 ans, s'apprêtait à quitter Coustossa pour Grèze, près de Carcassonne, où il envisageait de rejoindre son neveu et légataire universel, l'abbé Maurice Malot. Malheureusement, l'abbé Gélis ne devait jamais voir cette journée du 1er novembre 1897. En effet, il était un curé austère, il aimait vivre seul, en dehors des offices ou de ses obligations sacerdotales, il restait enfermé dans son presbytère, ce qui ne manquait pas d'étonner les villageois. La nuit, il fermait donc tous les volets, même en été. L'abbé avait fait poser une clochette sur la porte d'entrée pour signaler un éventuel visiteur. Mais en réalité, il n'en recevait quasiment jamais. Il ne fréquentait pas sa famille, hormis sa nièce Françoise Pagès, vivant à proximité, qui lui apportait ses repas et sa provision d'eau. Elle devait frapper à la porte close et l'abbé demandait invariablement « Qui frappe ?» Le dimanche 31 octobre 1897, l'abbé Gélis avait dit la messe à Coustossa pour la dernière fois. Dès le lendemain, il devait quitter le village pour rejoindre son lieu de retraite à Grèze. Mais le lundi matin à 10h, son petit-neveu Ernest Pagès, inquiet de ne pas avoir vu son grand-oncle, alla frapper à la porte du presbytère. Ne recevant aucune réponse, il manœuvra le loquet et poussa la porte qui n'était pas fermée à clé. Contrairement aux habitudes du prêtre, il entra et découvrit le corps sans vie de l'abbé allongé sur le sol de la cuisine, baignant dans une flaque de sang. L'assassinat était évident. Le jeune homme sortit en criant « On a tué monsieur le curé !» Aussitôt, le maire ordonna la fermeture du presbytère et fit prévenir les gendarmes de Cuisat. Ceux-ci vinrent faire les premières constatations dans la matinée, après avoir informé le juge de paix et télégraphié au procureur de la République de l'Aude, qui manda un juge d'instruction. Le juge de paix de Cuisat, M. Jean-Pierre Pugens, se rendit sur place dès le matin à 11h45. Le lendemain, c'est le juge d'instruction de Limoux, M. Raymond Jean, qui vint à 14h30. La porte d'entrée du presbytère ouvre sur un couloir, divisant le logement en deux parties égales. À gauche, la cuisine, à droite, la salle à manger. Au fond du couloir, un escalier conduit à l'étage où se trouvent les deux chambres, dont celle du prêtre située au-dessus de la salle à manger. C'est donc dans sa cuisine que l'abbé Gélis a été assassiné. Voici le déroulement des faits, tels qu'ils ont pu être reconstitués. le meurtrier ou les meurtriers arrive à une heure indéterminée de la nuit. L'abbé l'attendait ou les attendait car il avait bloqué la cloche de la porte pour l'empêcher de tinter au milieu de la nuit. Il connaît donc le ou les visiteurs. Ouvre sans méfiance et une conversation s'engage autour d'un verre de chartreuse dont on retrouvera la bouteille sur la table. Le prêtre se trouve assis dans son fauteuil près de la cheminée. À un moment, le visiteur ou l'un des visiteurs contourne le fauteuil et passe derrière l'abbé. Il a saisi les pincettes servant à remuer les braises dans le foyer, dans la cheminée, et soudain, il s'en sert pour frapper une première fois le prêtre à la tête. Du sang gicle sur les bras de l'abbé, posé sur les accoudoirs du fauteuil. Malgré la douleur atroce, malgré le sang qui coule, le prêtre a le courage de se lever et se dirige vers la fenêtre. Il veut appeler à l'aide. Ses neveux, qui habitent tout près, l'entendront et viendront à son secours. Mais le meurtrier le rattrape avant qu'il n'atteigne la fenêtre. Il frappe à nouveau et il ramène le prêtre sur le fauteuil, où il va être interrogé longuement et frappé à nouveau et à nouveau encore avec les pincettes et aussi avec une hachette à coups répétés. Puisqu'ils n'arrivent pas à obtenir l'information qu'ils sont venus chercher, ils décident de l'achever. Du sang gicle partout, jusqu'au plafond. Une fois le forfait accompli, l'assassin prend le temps de ranger la pièce, en évitant soigneusement de marcher dans le sang. Puis, il monte à l'étage, entre dans la chambre de l'abbé, fracture la serrure d'un sac de voyage contenant divers papiers et documents. Deux gouttes de sang retrouvées dans la chambre attestent de la présence du meurtrier. En fait, tout ce scénario sera établi par les gendarmes et le juge grâce à l'étude des taches de sang. Le vol n'était pas le mobile du crime. Dans le bureau du prêtre, on retrouve 683 francs or. Dans la commode, près de 107 francs or. L'abbé Gélis avait la réputation d'être riche et de manipuler beaucoup d'argent. Comme tous les curés, il percevait de l'État 900 francs or par an et en dépensait 700, donc il économisait bien 200 francs or par an. Or, l'abbé Gélis confiait chaque année au curé de Trèbes, un ami, la somme de 1000 francs or à placer en obligation de chemin de fer. Et puis on découvre une note manuscrite de l'abbé Gélis indiquant qu'une somme de plus de 13 000 francs or sont cachés à dans 10 endroits du presbytère et de l'église. 13 000 francs or, ça représente plus de 140 000 euros de 2023. Ces cachettes sont toutes retrouvées, mais d'où lui venait cette fortune? Chers amis, d'où venait cette fortune? Tout l'argent récupéré sera ensuite remis à l'abbé Malo, son neveu héritier. Le plus étrange, peut-être dans l'affaire, est que l'assassin a pris la peine de coucher soigneusement la victime sur le dos. et de croiser ses mains sur la poitrine, comme un gisant, dans un geste de prière. Autre fait curieux, la montre de l'abbé était bloquée à 00h15, alors que le crime a eu lieu, selon l'autopsie, entre 3h et 4h du matin. L'assassin aurait-il retardé la montre avant de la briser pour brouiller les pistes? Lorsque les deux juges commencèrent leur enquête, ils constatèrent qu'une forte odeur de tabac régnait encore dans la cuisine du presbytère. Or, l'abbé Gélis ne fumait pas et détestait que l'on fume en sa présence. Dans une flaque de sang, on trouvera un carnet entier de papier à cigarette de la marque Le Tsar. Cette marque était inconnue dans la région. Aucun buraliste n'en vendait. Sur l'une des feuilles détachées du carnet, on releva des mots écrits au crayon d'une écriture très malhabile. Le juge de paix déchiffra « Vico » ou « Epico » suivi d'Angelina. Le juge d'instruction, lui, s'acharna à y voir « Viva Angelina ». Pour lui, il devait s'agir de l'une de ces prostituées qui étaient légion dans les villes de la région. Il ordonna aux gendarmes de faire le tour des maisons de tolérance. C'est à Narbonne que l'on trouva, en effet, une fille prénommée Angelina, gagnée de son nom de famille. On l'interrogea, on lui fit écrire sur un bout de papier « Viva Angelina », mais l'écriture, régulière, ne correspondait pas à celle trouvée sur le papier de cigarette. Elle fut donc libérée. Le juge d'instruction, Raymond Jean, excluant le crime d'un rôdeur, orienta alors son enquête vers les proches de la victime. Pendant le mobile, pouvait être une affaire de famille. On fit arrêter le neveu, Joseph Pagès, criblé de dettes. On l'enferma, après l'avoir interrogé. Les langues commencèrent à se délier. Et effectivement, le neveu de Gélis fut arrêté. Il resta en prison quelques mois, puis le 2 août 1898, la cour de Montpellier rendit un arrêt de non-lieu. Joseph Pagès fut libéré. Il décida de quitter Coussossa et passa le reste de sa vie à Esperanza. Mais l'enquête revenait au point de départ. L'abbé Gélis a été enterré dans le petit cimetière du village de Coussossa où vous pouvez voir sa tombe qui est un monument tout simple. Une stèle verticale surmontée d'une croix, une simple inscription en lettres dorées. Ici repose le corps de l'abbé Antoine Gélis, assassiné dans son presbytère à l'âge de 70 ans. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1897. Priez pour lui. Le monument s'accompagnait jadis d'une petite plaque commémorative disparue aujourd'hui où, sous la photo de l'abbé, on pouvait lire « Souvenez-vous dans vos prières ». De l'âme de Gélis Antoine, curé de Coussossa, de 1857 à 1897, assassiné dans cette paroisse, victime de la haine des méchants, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1897. Suivaient deux phrases en latin, dont je vous livre, chers amis, la traduction. C'était un homme simple et droit, craignant Dieu et s'écartant du mal. Ici est un vrai martyr qui versa son sang pour le nom du Christ. Dix ans après le meurtre, l'abbé devenait un personnage de roman après avoir défrayé la chronique sur bien des journaux à travers le pays. Nous sommes en 1907, Maurice Leblanc, dont on connaît les liens avec l'affaire de Rennes-le-Château, publiait Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Roman qui parut d'abord en feuilleton, selon la mode de l'époque. L'un des épisodes était titré « Sherlock Holmes arrive trop tard ». Mais très vite, pour ne pas être accusé de plagiat, l'auteur, Maurice Leblanc, dut changer le nom du détective anglais en Herlock Sholmès. Dans cette histoire, le curé d'un petit village apparaît et se nomme l'abbé Gélis. Étrange, chers amis. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Le presbytère a été récemment transformé en musée et le premier cold case de France à faire classer réouverte nous est proposé et nous pouvons être accueillis sur place à Coustosa par Stéphanie, spécialiste de l'affaire, qui a relancé l'enquête aux côtés de la police. Nous pouvons, nous aussi, vous pouvez, chers amis, vous rendre à Coustosa et jouer aussi à votre tour les enquêteurs dans cette sordide affaire et chercher à travers le dossier d'instruction de nouvelles pistes. Car nous sommes en 2023 et nous ne savons toujours pas qui est ou qui sont les meurtriers de l'abbé Gélis. Voilà bien une étrange affaire. Dimanche prochain, nous ouvrirons un nouveau dossier de la route des secrets et nous marcherons ensemble dans les histoires, mythes et légendes de la belle Occitanie. Nous parlerons des fées et lavandières de Cascabel, près de Cuisa, Luxurode, Alette-les-Bains, dans la joie de nous retrouver.